Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La Voix est libre sur Graphite 94.9. Cette émission est animée par l'association Picasoft, une association qui sensibilise et forme les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge aussi des services web respectueux de la vie privée. Aujourd'hui, je suis en studio avec Audrey et Quentin. Bonjour à vous.
Salut Romain.
Salut Romain.
Et nous accueillons Anna Gallès pour développeuse principale de Plume pour une émission sur Plume, une application de blogging fédérée. Salut à toi.
Bonjour.
Alors, du coup, Anna, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans l'émission. Plume, c'est un sujet qu'on apprécie particulièrement comme le fait divers, bon, toutes ces notions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Mais alors, comme l'a dit Romain, Plume, c'est une application de blogging fédéré. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire ?
Alors, c'est toujours un peu compliqué à expliquer en quelques mots, j'ai l'impression, ce que c'est la fédération, tout ça. Surtout aux personnes qui ne connaissent pas du tout. Mais l'idée, c'est que chacun installe son blog sur son site, un peu de son côté, on va dire. Et contrairement à des blogs classiques, la fédération va leur permettre de communiquer, ce qui fait qu'on va pouvoir, même si on a un compte que sur un de ces sites, on va pouvoir suivre des gens qui ont des comptes, eux, sur d'autres sites. Suivre des blogs comme ça, commenter des articles de blog de plein d'endroits d'Internet différents, finalement, de plein de sites différents, en accédant à tout ça via un seul site et un seul compte. Je pense que ça résume l'idée. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire.
Si, je trouve que ça résume carrément. J'avoue que c'était un peu une question difficile d'entrée de jeu, puisque c'est effectivement assez difficile à expliquer la fédération, mais on reviendra dessus. Et du coup, en fait, la question, c'est donc effectivement, on a bien compris qu'il y avait différents blogs et que depuis un blog, on pouvait suivre des gens qui sont sur d'autres blogs. Mais du coup, pourquoi en fait ne pas utiliser tout simplement, entre guillemets, d'autres plateformes existantes comme Tumblr ou WordPress ? Et du coup, par extension, d'où est venue finalement l'idée de ce projet ?
Le souci de Tumblr et WordPress, enfin WordPress dans la version WordPress.com, où j'ai envie de dire, où finalement tout le monde est sur la même plateforme, et aussi Medium, ou enfin toutes les plateformes de blog comme ça, un peu à la mode, on va dire, parce qu'elles sont quand même centralisées et souvent propriétaires. Enfin, WordPress, c'est libre globalement, mais par exemple Medium ou Tumblr, c'est propriétaire et on n'a aucun contrôle sur tout ce qui est administration, sur tout ce qui est vie privée, tout ça. Par exemple, il y a eu un scandale à un moment parce que Tumblr bannissait beaucoup d'artistes parce qu'ils postaient des dessins de nus ou des choses comme ça. Et enfin, les artistes qui avaient besoin de Tumblr pour mettre en avant leur contenu se sont retrouvés sans plateforme et ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'avaient aucun contrôle sur la plateforme. Donc, l'intérêt d'avoir quelque chose de décentralisé où il n'y a pas une personne ou une organisation qui contrôle tout, c'est aussi de pouvoir dire, telle instance, tel site me refuse l'accès parce que je poste des nus, mais je sais que sur celui-là, il n'y aura pas de souci, donc je vais aller sur celui-là et me refaire un compte, et puis c'est pas grave.
Ouais, en effet, donc tu insistes sur cette caractéristique de la décentralisation qui permet d'avoir le choix après sur les règles qu'on souhaite adopter, sur ce que l'on souhaite voir comme type de contenu ou pas. Et aussi, tu es donc très sensibilisé à la question du libre, donc tu as souhaité créer un projet en libre, justement, pour que chacun puisse garder le contrôle dessus. En créant ce projet sous licence libre, tu as commencé aussi à animer une communauté de contributeurs et de contributrices. Alors, la question, c'est à partir de quand est-ce que tu as commencé à travailler collectivement, donc avec d'autres personnes, et comment ça se passe, comment tu fais pour gérer ça ?
Ça c'est venu assez vite, en fait. Je pense que j'ai commencé à parler du projet en mars ou avril 2018, si je dis pas de bêtises. Et très rapidement, il y a des personnes qui ont fait au début des toutes petites contributions, du style changer une faute dans la page de présentation du projet, ce genre de trucs. Enfin, vraiment, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, mais ça aide quand même. Et voilà. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus aider sur du code aussi, au bout de quelques semaines finalement, après que j'ai parlé du projet, parce que j'avais pas forcément des masses d'expérience non plus. Et il y avait beaucoup de personnes qui voyaient des défauts dans ce que je faisais, qui voyaient comment améliorer. et qui sont venus donner un coup de main. Après, comment gérer ça? En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est assez vite ne pas être la personne qui ait le contrôle sur le projet. C'est-à-dire que j'ai donné des droits à d'autres personnes pour accéder aux différentes infrastructures. Je pense notamment au GitHub où on était. GitHub, je ne sais pas s'il faut que je dise ce que c'est pour les auditeurs et les auditrices ou pas.
On peut dire que c'est une plateforme qui permet de collaborer sur du code et des projets informatiques, peut-être.
Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai donné assez vite l'accès au GitHub à d'autres contributrices et d'autres contributeurs pour que je ne sois pas la seule personne, genre que si un jour j'arrête de contribuer au projet, genre le projet puisse quand même continuer à vivre, même si je suis plus là pour valider chaque changement du code, on va dire. Voilà. Et on a essayé aussi d'adopter tout ce qui est considéré comme les bases pour faire un projet accueillant, entre guillemets, c'est-à-dire faire un code de conduite pour dire tel comportement ne sera pas toléré au sein de la communauté, ce genre de choses. On a essayé de mettre en place des salons de discussion, bien sûr. On a mis en place un Lumio aussi, qui est un outil, une sorte de forum où on peut facilement organiser des votes. Et on a voté quelques petits trucs comme ça sur savoir quelle direction le projet devait prendre, quelle fonctionnalité on devait ajouter, ce genre de choses. Au final, il n'a pas beaucoup servi, mais l'idée était quand même intéressante, je trouve. Voilà.
Et donc finalement, c'est un projet qui est assez jeune. Et donc, comment t'aimerais voir évoluer Plume? Et est-ce qu'en lançant le projet, finalement, tu t'étais fixé certains objectifs?
Il y a certains objectifs que je m'étais fixé à l'origine du projet, qui étaient notamment rendre possible de collaborer sur des blogs, des blogs à plusieurs auteurs, en fait, de manière décentralisée. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, je vais prendre le cas de Picassoft, vous êtes trois à vouloir écrire un article de blog dans l'association. Vous êtes un blog Picassoft, vous avez chacun vos comptes, et même si vous n'êtes pas sur les mêmes instances, vous pouvez quand même tous publier dans le blog Picassoft et rédiger des articles ensemble. Donc ça, c'était un objectif qu'on avait, on n'y est toujours pas, alors que ça fait quand même 2 ans que le projet existe, 2 ans et demi même. Là, pour le moment, le projet est un peu... avance difficilement, on va dire. Les plus grosses contributrices, parce qu'on est trois filles à travailler dessus, on a un peu perdu la motivation pour travailler dessus, il faudrait qu'on s'y remette. Et surtout, c'est assez compliqué de travailler en vrai sur un projet fédéré. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est beaucoup plus complexe. Ça ajoute toute une couche de complexité par rapport à un projet classique, entre guillemets.
Ok. Tu as envie d'ajouter quelque chose ou j'ai l'impression de t'avoir coupé?
Non, je sais plus où j'allais.
Non, mais c'est vrai que j'imagine très bien que coder sur avec enfin je veux dire profiter de toute la liberté que laissent les protocoles ActivityPub par exemple laisse aussi beaucoup de marge de manœuvre et donc c'est aussi très complexe de contribuer à ce niveau-là sur le fait divers. Après, qu'est-ce qui te rend toi le plus enthousiaste à propos du fait divers, que ce soit par rapport à Plume ou que ce soit un petit peu plus largement par rapport au logiciel qui s'y développe? Pourquoi est-ce que c'est tout de même la communauté et l'univers que tu as voulu, que tu as souhaité quand même découvrir avec Plume?
Je pense que l'idée du fait divers, elle est vraiment bien, l'idée de décentraliser sans pour autant être sur un modèle peer-to-peer. C'est vraiment, je pense, le meilleur des deux mondes, justement, entre un modèle 100% centralisé et un modèle peer-to-peer. C'est-à-dire que c'est quand même facile d'accès pour tout le monde. Enfin, on se crée juste un compte sur un site finalement et on y a accès. Pas besoin d'installer de logiciels spécial ou quoi, comme c'est le cas pour le peer-to-peer. Et en même temps, ça reste décentralisé. Et du coup, c'est vraiment un bon modèle, je pense, pour tout ce qui est chatons, parce que ça fait que les chatons, par exemple, ne sont pas isolés dans leur coin finalement, même si chaque hébergeur est indépendant, ils peuvent tous communiquer entre eux et on n'a pas le problème de l'effet de réseau qu'on a quand on essaie de faire sortir les gens de systèmes privateurs, on va dire.
Ouais, en effet.
Du coup, c'est vraiment un bon modèle, je trouve. Voilà.
Ouais, ok. Donc en effet, il y a le modèle et puis aussi tu parles des chatons, donc aussi toute l'aide qui peut être apportée par la communauté ouais. Et puis même par rapport à Plume, je vois ce que tu as mis en place, c'est justement beaucoup de documentation, des codes de conduite. Enfin, il y a tout un accompagnement qui est proposé finalement pour faire ses premiers pas dans le fait divers et puis sur Plume également. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour héberger soi-même une instance Plume? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Comment on peut faire?
Pour héberger une instance Plume, on a mis en place une documentation justement. On explique les différentes méthodes. Et enfin, ça demande bien sûr des compétences, un minimum de compétences en informatique, j'ai envie de dire. C'est pas à la portée de tout le monde non plus, mais on a essayé de rendre ça le plus simple possible. De vraiment expliquer quoi faire, quelles sont les différentes étapes et qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Après, je ne sais pas si c'est vraiment réussi, mais on essaie quand même de rendre ça accessible au maximum. Voilà.
En tout cas, oui, c'est réussi. Hein. Nous, on peut témoigner chez Picassoft que l'installation oui. Elle s'est vraiment passée sans douleur. Et donc, voilà.
C'est pas le cas pour tout le monde parce que c'est quand même un logiciel qui est encore en cours de développement. Il y a des bugs et ce genre de choses, mais j'ai vu que vous aviez une instance Plume, mais c'est chouette.
Et justement, comme tu me disais, c'est des sujets complexes. La fédération, on reviendra un petit peu sur les termes plus tard. Mais si jamais on souhaite contribuer à Plume, peut-être aider à résoudre les bugs dont tu parlais, ou aller simplement vers les fonctionnalités, vers les objectifs que vous étiez fixés à la base, comment est-ce qu'on peut te contacter ou tout simplement rejoindre la communauté de contributeurs et de contributrices?
Alors, je pense que le mieux, c'est de rejoindre le Salon Matrix. On a un Salon Matrix principal. Donc, Matrix, je crois que vous en avez parlé dans des émissions d'avant. C'est une plateforme de chat décentralisée aussi. Et donc, on a un salon principal où on fait du support, des annonces, ce genre de choses. Et on a un salon de développement aussi. Les liens sont dans la documentation et sur le site officiel de Plume, je crois, s'il faut. Voilà. Et après, on a un Gitty qui est donc une alternative à GitHub parce qu'on est en train de quitter GitHub pour diverses raisons. Et donc, on a un Gitty aussi où on peut juste créer un compte et dire j'ai envie de travailler sur tel bug. Voilà, vous le dites sur le Gitty et il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller.
Ok.
Ça fera même très plaisir.
Ouais, super. Non, écoute, le message est passé. Donc, vous le voyez, en effet, énormément de portes d'entrée, soit pour aller découvrir Plume, comme ça, juste en tant qu'auteur, autrice, ou alors aussi en tant que contributeur, contributrice, beaucoup de moyens de vous rejoindre. Et puis, si j'ai bien compris, donc, Anna, il y a toute une communauté, ou en tout cas, vous êtes trois développeuses pour accueillir toutes les bonnes volontés. Anna, merci beaucoup pour cette interview. Déjà, donc tu souhaites rester avec nous pour le reste de l'émission et ça, c'est super sympa. On a prévu de parler un petit peu avant de vous faire un petit final de l'émission sur vraiment les quelques particularités des pratiques de blogging sur Plume. On va se refaire une petite histoire du blogging, justement, des pratiques de blogging, et puis une petite rétrospective sur les débuts du web, les débuts, les premiers sites web personnels, l'évolution, et puis comment est-ce qu'on en arrive justement à de nouvelles pratiques, un nouveau cap qui est passé avec Plume. Le blog, comment est-ce que ça a commencé? Ça date de longtemps, et puis comment on a démarré sur le web?
On va pas refaire une histoire évidemment du web, mais c'est vrai que si aujourd'hui les blogs, ça nous paraît assez omniprésent et super naturel d'avoir un blog, ça n'a pas toujours été le cas. Donc déjà, étymologiquement, entre guillemets, blog, c'est la contraction de deux mots, web et log, et ce qu'on pourrait traduire globalement par un journal de bord sur le web. Donc le mot, il a été pour la première fois employé en 97. Et en fait, aujourd'hui, blog, ça recouvre pas mal de notions. Hein. Ça peut être les œuvres d'un dessinateur ou d'une dessinatrice, des nouvelles activités d'une association, un journal intime, des poèmes, l'opinion d'un journaliste, le carnet de bord d'une photographe, des satires d'hommes politiques, etc., etc. Mais en fait, les blogs, ça n'a pas toujours existé. Et on peut trouver dans les blogs, finalement, une sorte de successeur aux pages web personnelles des années 90. Donc à ce moment-là, le web grand public, il est assez balbutiement. Et ouvrir un site web personnel, bah, c'est une affaire d'initié. Surtout parce que c'est technique. Il faut savoir coder dans les langages du web, donc comme HTML. Et puis aussi, il faut savoir mettre en ligne son site web. Et donc à ce stade, on retrouve dans les pages personnelles, des éléments clés de la contre-culture à l'origine d'Internet. Donc déjà, le processus éditorial, il est assuré uniquement par le blogueur ou la blogueuse. Donc la parole publique n'est pas contrôlée par une entité, qu'elle soit publique ou privée. Et puis surtout, cette parole, elle est égalitaire, dans le sens où il n'est pas plus coûteux de consulter un petit site web qu'un journal en ligne. Et puis, il n'y a aucune autorité qui va décider de l'importance plus grande ou plus petite de tel ou tel site web. Alors, en tout cas, techniquement, parce qu'on pourra se dire que les moteurs de recherche le font, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour revenir aux pages web personnelles, pour celles et ceux qui savent faire, eh bien, c'est une véritable mine d'or, parce qu'avec une simple ligne téléphonique, eh bien, on peut accéder à un océan infini de pages qui sont créées par des particuliers sur des sujets aussi variés que possible. Donc ces sites, on pourrait dire que c'est en quelque sorte la voix d'une personne. C'est un prolongement numérique des traditions orales, hein, les conversations qu'on peut avoir dans la sphère privée, plutôt qu'une nouvelle manière d'écrire. Hein. Parce qu'effectivement, la parole publique libre, auparavant, eh ben, on peut peut-être la trouver au niveau des radios libres ou des radios pirates, ou justement dans la sphère géographique proche. Mais tout le reste, donc les médias, les livres, n'est soit pas adapté à la voix d'une personne qui a juste envie de s'exprimer, soit pas assez démocratique pour permettre à tout le monde de s'exprimer, comme dans les médias traditionnels. Donc pourtant, les pages personnelles, à la fin, en tout cas des années 90, eh bien, elles ne sont pas si nombreuses. Et justement, on en a parlé, ce qui bloque la démocratisation du blog jusqu'au début des années 2000, c'est l'effort technique, c'est l'effort financier qu'il faut fournir pour ouvrir un site web personnel. Et cet effort va largement diminuer avec l'arrivée des plateformes de blogging et donc des premiers vrais blogs.
Mais alors, qu'est-ce qui va différencier justement cette approche de page personnelle ensuite les premiers vrais blogs dont tu parles?
Donc du coup, ce qui va différencier les premières pages personnelles des blogs, ça va être l'interaction, en fait, l'aspect social, l'aspect interactif du blog. En effet, les blogs sont en général munis d'un système de commentaires, des systèmes de partage ou encore des systèmes d'abonnement ou de flux RSS pour être tenus au courant de l'arrivée de nouveaux articles. Et en général, les blogs sont organisés de manière comme avec des billets, des articles, avec des tags, des dates, etc. C'est en fait l'arrivée des premières plateformes de blog qui va marquer la standardisation du format et la démocratisation des blogs. La première plateforme, ça peut être Open Diary, qui est ouverte en 1997. Et contrairement au site personnel, là il s'agit d'une plateforme qui est centralisée. Tout se retrouve au même endroit, donc il faut écrire sur un site et pour aller consulter les différents blogs, faut aller sur ce site. Donc voilà, donc c'est plus dans l'esprit des pages personnelles où chacun pouvait héberger lui-même sa page et tout gérer lui-même. Et à partir de 2003, on va assister à deux phénomènes. Donc ça va être le lancement de gros blogs, des blogs comme le HuffPost ou Mashable, qui sont tenus par un seul auteur à la base et qui aujourd'hui continuent à être alimentés par de nombreux auteurs et qui vont plus se rapprocher des médias classiques que de l'idée qu'on se fait d'un blog. Et il va aussi y avoir la multiplication des plateformes de blogging, donc on a parlé de certaines comme WordPress, où il y a aussi Overblog, et en France, il y a ce qui est bien connu, Skyblog.
Alors moi, le Skyblog, j'en ai un souvenir quand même assez particulier. Je ne sais pas si Anna, tu avais un Skyblog, toi?
Non, je n'avais pas de Skyblog parce que j'étais trop jeune, je pense, mais j'avais un blog sur un site équivalent pour enfants, parce qu'à cette époque-là, j'étais encore enfant.
J'ai un petit coup de vieux, là.
Désolé. Et du coup, ça s'appelait Canaille Blog, je crois. Enfin, c'était vendu comme une plateforme de blog pour enfants. Voilà.
D'accord.
J'ai commencé le blogging assez tôt. Je crois que mon premier compte sur Internet, c'était pour me faire un blog, justement. Plus que j'y racontais, mais...
Génial, bon, on ira voir Canaille Blog. Alors, ton blog est encore accès. Enfin, non, on va pas ressortir les vieux dossiers, excuse-moi. Non, non.
De toute façon, je me souviens plus du nom du blog, donc je ne pourrais même pas le retrouver moi-même.
Alors, en effet, par rapport au Skyblog, en tout cas de mon époque, c'était quand même très, très populaire. Sur ces plateformes, le succès est immédiat, c'est-à-dire qu'on assiste en effet à un passage de la manipulation du code à une manipulation de contenu, puis à une écriture. Les connaissances techniques qui étaient nécessaires au départ pour ouvrir un blog deviennent plus faibles finalement, puisqu'il suffit d'une connexion Internet et puis la création du blog passe par des interfaces graphiques. Donc ça se démocratise énormément. Et aujourd'hui, en effet, on compte plusieurs centaines de millions de blogs à travers le monde. Voilà. Donc l'impact des plateformes de blogging est énorme, mais a aussi des conséquences, c'est-à-dire qu'en effet, à ce stade, la création de communautés, donc en fonction de l'âge, des thématiques qui intéressent les gens, peut uniquement se faire à travers une plateforme centralisée, on l'a dit. Donc, soit on héberge soi-même un blog, mais il est difficilement trouvable, et puis voilà, il faut avoir une certaine notoriété, soit alors on s'intègre à une plateforme existante. Ces plateformes ont des coûts de fonctionnement et un blog a par essence une faible valeur commerciale, donc de là l'arrivée de la publicité, les mécanismes de mise en avant des contenus qui marchent bien, les générateurs de clics, etc., et les revenus publicitaires, bref, tout un pan auquel on peut essayer ensuite de trouver des alternatives, quoi.
Bah oui, carrément. Et puis, mais par ailleurs, en fait, ce qu'il faut aussi voir au niveau des blogs, c'est que, étant donné que les blogs étaient, enfin, en tout cas, la plupart des plateformes centralisent quand même des blogs de nature très différente. En fait, il y a eu, si tu veux, un sentiment de communauté qui a pu commencer à héberger à partir du moment où ces plateformes ont commencé à centraliser, puisque sur la même plateforme, on pouvait interagir avec d'autres blogs, peut-être qui parlent un peu de la même chose, ou en tout cas s'abonner directement à d'autres blogs. Et je pense que cet aspect social, c'est un truc qui a fait que dès le départ, les plateformes de blogs, elles ressemblaient un petit peu par leur mécanisme aux réseaux sociaux. Et justement, aujourd'hui, on assiste, alors je dirais pas un déclin du blog, mais en tout cas, peut-être que la forme de blog qui est la plus utilisée, eh bien, c'est le micro-blogging. Audrey ou Romain, vous voulez expliquer un petit peu comment ça s'est passé tout ça, et puis qu'est-ce que c'est le micro-blogging ?
Qu'est-ce que c'est le micro-blogging ? C'est quelque chose qu'on pourrait dire à mi-chemin entre le blog et la discussion instantanée. C'est des messages plus courts, éventuellement avec un média à côté, une image, une vidéo, mais qui ouvre des possibilités après d'interaction qui parlent plus dans l'écriture sociale, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs micro-blogs depuis un seul endroit. On va aussi pouvoir restreindre la diffusion à un ensemble de personnes. Mais en tout cas, ce sont des contenus qui sont des supports d'interaction. Et les exemples les plus connus de micro-blogging sont Twitter ou Tumblr, on en parlait. Mais à partir de ces plateformes, on peut donc aussi facilement découvrir de nouvelles personnes via des systèmes de recommandations, des mises en avant des tendances, etc. Enfin, il y a tout un pan d'autres pratiques qui s'ouvrent. Il y a aussi des mécanismes de notification qui permettent d'être tenu au courant de nouveaux posts. Après, on pourrait repartir sur la toxicité des notifications, mais c'est un autre débat. Je pense qu'il nous faudra une autre émission là-dessus. Le microblogging permet d'atteindre après, de toucher une audience très large potentiellement, et puis les plateformes de microblogging sont privilégiées aujourd'hui pour la diffusion d'informations en temps réel de la part des citoyens eux-mêmes. Un contenu, que ce soit un billet d'humeur, une information sourcée ou moins sourcée ou une information trompeuse, peut être diffusé instantanément à des millions de personnes et faire son chemin en très peu de temps. Donc après, il y a certains enjeux qui s'ouvrent aussi sur ces plateformes de microblogging. Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête ?
Au final, c'est un peu les mêmes enjeux que... Alors bon, déjà, évidemment, il y a tous les enjeux qui sont autour des plateformes centralisatrices et puis qui tirent leurs revenus essentiellement de la publicité. Donc, bien sûr, en matière de vie privée, les données des utilisateurs sont exploitées pour produire de la publicité. Mais il y a aussi, quelque part, une histoire d'influence, un problème inhérent à ces plateformes de microblogging. Effectivement, comme on sait que plus de données générés par les utilisateurs et les utilisatrices, ça fait plus de revenus, les plateformes de microblogging ont tout intérêt à favoriser les contenus viraux, donc c'est-à-dire des contenus qui vont faire réagir, qui vont générer beaucoup de partages, qui vont générer beaucoup de commentaires et de réactions. Donc, alors, Effectivement, hein, c'est un problème qu'essayent de résoudre les plateformes de microblogging qui sont fédérées et décentralisées, comme Mastodon. Ça, on y reviendra peut-être après, puisque dans leur mécanisme, ils sont moins toxiques, quelque part. Ils cherchent moins à générer ces contenus. Mais bon, avec ce problème, sur les plateformes comme Twitter, ce serait quand même assez réducteur de se dire que le microblogging, c'est une sous-version du blog qui met seulement en avant les contenus véraux et puis qui réduit la nuance. Donc, le microblogging aussi, il permet de faciliter la rencontre avec de nouvelles personnes, la création de communautés, et puis la publication, de manière générale, c'est encore moins, entre guillemets, difficile que sur un blog.
Ouais, excuse-moi, je voulais t'interrompre, Quentin, juste pour te demander, Anna, si tu étais sur Mastodon, sur Twitter, est-ce que si tu es sur ces deux plateformes, est-ce que tu as des pratiques différentes sur les deux ?
Je suis que sur Mastodon. J'ai eu un Twitter il y a très longtemps, mais c'était il y a très longtemps. Okay. Mais du coup, je ne peux pas vraiment comparer les deux. Je n'ai pas un très grand souvenir de Twitter. Et je ne peux pas vraiment... Ouais, je n'ai pas vraiment d'usage différent vu que je ne suis pas sur Twitter.
Ok. Et après, est-ce que tu en profites pour faire interagir l'instance Plume où tu écris avec ton compte Twitter, ton compte Mastodon, excuse-moi.
Avec mon compte Mastodon, pas spécialement, mais ce que je fais, c'est que je repartage les articles que je publie sur Plume via Mastodon, par exemple. Et parfois, quand je vois un article Plume passer dans ma timeline Mastodon, je le commente ou je le partage. Mais c'est sûr que si je veux développer plus ma pensée, je ne vais pas utiliser Mastodon en général. Je vais m'en faire plus pour des idées qui me passent par la tête comme ça, et si je veux vraiment mettre quelque chose en forme bien proprement et le partager avec d'autres personnes, je vais aller sur un vrai blog. plus me laisser écrire, quoi. Pas du microblogging en tout cas.
Justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement il y a vraiment des pratiques différentes dans le blogging et dans le microblogging qui se complètent, et c'est là où je trouve que, enfin, c'est pour ça que je pense qu'on a été très enthousiaste vis-à-vis de Plume, c'est que pour moi ça vient remplir un espace qui était jusqu'ici laissé vide, c'est-à-dire la possibilité de créer des vrais blogs, comme tu disais, mais tout en conservant l'aspect social avec les mécanismes de partage et de commentaires directement depuis les plateformes de microblogging, le tout sans s'enfermer sur une seule plateforme commerciale parce que c'est décentralisé. Donc d'un côté, voilà, quoi, il n'y a pas de censure unilatérale, mais en même temps, les utilisateurs et les utilisatrices peuvent se protéger des contenus qu'ils ne peuvent pas voir avec toutes les mécaniques de modération, de code de conduite, de blocage d'instances, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est super, super enthousiasmant.
Du coup, si on veut résumer un peu toute cette histoire du blog là, qu'on vient de faire, le blog, ça tire son origine dans les pages personnelles des années 90. Ces pages personnelles qui nécessitaient une forte compétence technique, mais qui, pour la première fois, en fait, permettent une expression égalitaire et sans frontières sur n'importe quel sujet. Et ça va se démocratiser ensuite avec les plateformes de blogging qui font émerger l'aspect social qu'on connaît aujourd'hui du blog, donc les commentaires, les partages, les créations de la communauté. Et ça va se mouvoir progressivement vers le microblogging, qui accentue encore l'aspect social avec des fonctionnalités de suivi, de recommandation de contenu, et qui va permettre la diffusion rapide et massive d'un contenu. Et aujourd'hui, on a les vrais blogs, entre guillemets, qui sont un peu plus rares, et leur diffusion en fait, va dépendre essentiellement des algorithmes des moteurs de recherche. Donc, on a déjà fait des émissions sur les moteurs de recherche, si vous voulez en connaître un peu plus. Du coup, de leur notoriété et de leur référencement directement sur les plateformes de microblogging et sur les réseaux sociaux. Du coup, quelqu'un veut donner quelques exemples de blogs
En effet, alors il y a quelques blogs dont on a déjà parlé dans La Voix est libre. Alors bien sûr, évidemment, le Framablog qui est tenu par Framasoft. On a parlé aussi du blog Silex de Calimac quand on parlait des licences libres, du droit d'auteur et tout. Aussi, il y a un blog qu'on a cité plusieurs fois, il y a aswemay.fr, le blog de Stéphane, là, c'est là où il capitalise ses recherches. Est-ce que... Alors je ne vais pas tous les faire, vous en avez d'autres en tête que vous avez envie de mettre en lumière ?
Oh, moi, je te laisse les faire, Audrey. Je trouve que tu es bien partie, là.
C'est vrai, je continue sur la lancée. On a dû évoquer, je crois, au moins une fois, le blog affordance.info, le blog d'Olivier Archette, que j'aime bien particulièrement. Aussi, le stand blog de Tristan Nito. Et puis, un que j'ai découvert plus récemment, c'est le blog du Low Tech Magazine aussi, si vous vous intéressez au site web, au site web Low Tech, donc. Ok, après, d'autres blogs qu'on aime bien. Là, comme ça, moi, j'ai le blog de Corben qui me vient, qui traite d'informatique.
Ouais, bah, il y a Uzbek Erika. Je sais pas si on prononce Uzbek comme ça, je l'ai toujours dit comme ça, mais c'est un blog vraiment intéressant qui traite de tout plein de sujets de société, tout comme Lundi Matin.
Oui.
Honnêtement, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ce blog qui est excellent, en fait, qui se rapproche aussi de l'actualité. Hein. Là, c'est là où la porosité entre journal et blog est un peu énorme.
Après, on peut citer Next Impact ou encore le blog Internet Actu qui est tenu par Hubert Guillot.
Ouais, et Internet Actu avec des analyses vraiment très très intéressantes à aller lire. Et puis j'aime bien aussi le blog Net Critique de Geert Loming. Et puis aussi un blog assez particulier, celui de Nikki Case, qui produit des animations interactives, qui explique certains concepts avec des petites animations qui sont très très pédagogiques. Enfin bon, c'est à aller découvrir. Anna, je sais pas si toi tu as quelques blogs que tu aimes bien les consulter régulièrement.
Il y a dans ceux que vous avez pas cités, enfin il y en a plein que vous avez cités que je consulte aussi, mais dans ceux que vous avez pas cités, il y a peut-être le blog de MyOne, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais
carrément, ouais.
Et son blog est assez intéressant, je trouve. C'est pas forcément en lien avec l'actualité, mais elle parle de design et de logiciels libres, et il y a plein d'articles intéressants dessus, je trouve. Voilà, du coup, si je peux en recommander un, ça serait lui, je pense.
Trop chouette, merci. Ok, je vous propose de faire une petite pause avant de continuer l'émission. Pour là, dans la suite de l'émission, on parlera un petit peu plus de faits divers et de plumes pour revenir peut-être sur les concepts un peu plus en profondeur. Je commence à en avoir marre qu'on se moque de mon accent anglais quand j'annonce les musiques. Du coup, je laisse quelqu'un d'autre annoncer la musique qu'on passera aujourd'hui.
Alors attention, je vais te faire Introducing the Co-Writer. Introducing the Co-Writer de Machine Dear. C'est vrai que c'était pas évident. Et c'est en licence CC by NC, ça va. À tout à l'heure.
C'était merveilleux, à tout à l'heure.
C'était Introducing the Co-Writer de Machine Dear en licence CC by NC et de retour donc dans la voie libre. Alors, on est toujours avec Anna, développeuse de Plume, et on a fait donc toute une revue qui n'est pas exhaustive bien sûr, mais une petite revue de l'évolution des pratiques de blog, de microblogging, etc. Et donc maintenant, en dernière partie, on va voir cette toute dernière étape qui est l'arrivée de Plume, donc qui est l'arrivée de nouvelles pratiques de microblogging grâce à Plume et du fait divers. Alors, le fait divers, alors, depuis le début, on dit le, on ne sait même pas si c'est la fait divers, la fédération, mais enfin, on va dire le fait divers, on en a parlé dans de précédentes émissions, mais pour faire un petit récapitulatif très rapide, une instance du fait divers, c'est une copie d'un logiciel libre qui est installée sur un serveur administré par une personne ou une organisation. C'est l'utilisation de ce logiciel libre va être accessible via le web, sur le web via son URL unique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce logiciel peut échanger des informations. Enfin, cette copie, l'instance peut échanger des informations avec d'autres instances grâce à des langages de communication standards que l'on appelle des protocoles.
En fait, on peut aussi, alors c'est peut-être un peu caricatural, mais imaginer ça comme plusieurs villages qui auraient chacun leurs propres règles et puis leur propre communauté avec des pratiques plus ou moins différentes, mais qui sont quand même capables de communiquer entre elles via des routes situées entre ces villages et qui n'ont pas, au contraire, une espèce de barrière fortifiée, infranchissable pour les gens qui ne sont pas à l'intérieur de la communauté, comme c'est le cas, en tout cas systématiquement, pour les plateformes comme Facebook, Twitter et compagnie, quoi. C'est vraiment le meilleur des deux mondes.
C'est ça, exactement. Chaque village se gère comme il le souhaite, mais par contre, les villages peuvent communiquer ensemble et ne sont pas isolés. Alors, pour transcrire ça un petit peu dans le contexte de Plume, et avant de nous intéresser à toutes les possibilités d'interaction qu'ouvre cette histoire justement de protocole standard, dans le contexte de Plume, donc une instance de Plume, c'est... Anna, tu me dis si je me trompe, évidemment, c'est une copie d'un logiciel que l'on peut définir comme un moteur de blog, donc une application qui permet de publier sur le web un blog ou un regroupement même de plusieurs blogs. Et sur un blog Plume, les articles peuvent être rédigés donc par un ou une auteur et également de façon collaborative. Hein, Anna, tu nous l'as dit tout à l'heure. Et voilà, après, ce qui est très pratique aussi et confortable sur Plume, c'est qu'on peut écrire avec le format Markdown. Et puis enfin, c'est autre chose encore, les instances de Plume ont une apparence par défaut, mais tout comme il est possible de décorer son village comme on le souhaite, il est possible de personnaliser le thème de son instance Plume et même de personnaliser les thèmes plus finement à l'échelle des blogs qui sont sur une instance. Voilà. Alors il existe une diversité d'instances différentes de Plume. Elles vont être gérées différemment par des personnes, des organisations qui vont poser leurs propres conditions et leurs propres chartes éditoriales. Et donc, on insiste bien là-dessus parce que c'est ça qui est très important. Et ce qui est important aussi pour toi, Anna, si, selon ce que tu nous disais en début d'émission, c'est que ça signifie qu'on a le choix d'aller écrire sur telle ou telle instance de Plume en fonction des règles qui nous conviennent, en fonction des communautés avec lesquelles on souhaite interagir ou non. Et puis également, ça signifie qu'on peut soi-même donc gérer sa propre instance de blog et puis y mettre ses propres règles, quoi. Alors, si je poursuis avec la petite définition de départ d'une instance, chaque instance de blog est accessible sur le web donc via une adresse unique, via une URL. Les blogs ne sont pas centralisés sur une unique plateforme et donc il y a plein de portes d'entrée en fait au réseau d'instances de Plume, hein, puisque chaque instance est accessible via une URL. Et puis, donc dernier point, les instances sont fédérées entre elles, donc elles peuvent communiquer entre elles. Alors concrètement, ça veut dire que en choisissant une instance ou en hébergeant une instance, il est tout à fait possible d'accéder au contenu qui est publié sur d'autres instances Plume. Il est possible de repartager ces contenus sur son instance et même de s'abonner au flux des contenus publiés par un auteur qui serait inscrit sur d'autres instances, sur une autre instance. Voilà. Donc, il est possible d'interagir avec ces contenus via des commentaires, des mentions. Il y a tout plein d'interactions possibles entre instances de Plume. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces interactions peuvent être élargies aussi Et ça, c'est une caractéristique très intéressante de la fédération qui peut mener à de nouvelles pratiques de blogging. Alors, peut-être que Quentin, tu peux éclaircir un petit peu ce sur quoi j'essaie de garder un petit suspense.
Bah oui, Audrey, c'est vraiment, on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, mais effectivement, il est temps de l'expliciter un petit peu. Donc, on a dit effectivement au départ que différentes instances de plumes, donc différents villages avec leurs propres décorations et leurs propres règles, eh bien, pouvaient communiquer entre elles. En fait, il faut voir ça au sens large et pas seulement au sens des instances de plumes. Donc, grâce aux protocoles standards qui sont utilisés dans le fait divers, donc Audrey t'a mentionné ActivityPub, c'est effectivement ce langage commun entre toutes les applications du fait divers, hein, toutes les applications capables d'avoir ces fonctionnalités de fédération, pardon, eh bien, toutes les instances du fait divers peuvent communiquer entre elles, quel que soit le logiciel, l'application du fait divers en question, évidemment, sous réserve que les administrateurs et administratrices en décident ainsi. Ce qui veut dire que si Plume est un des logiciels du fait divers, eh bien, vous me voyez venir, en plus de communiquer entre instances de Plume, les instances de Plume peuvent communiquer avec les instances d'autres logiciels. Alors pour être plus concret, ça veut dire que, par exemple, en utilisant le logiciel de microblogging Mastodon, alors pardon d'avance, mais qui est une sorte d'équivalent à Twitter pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, mais fédéré, ou alors le logiciel de partage de vidéos qui s'appelle Peertube, ou encore le logiciel de partage de photos qui s'appelle PixelFed, eh bien, il est possible d'interagir avec des instances de Plume. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, pardon, hein, c'est pour la vulgarisation. C'est comme si, d'un compte Twitter, vous pouviez, par exemple, poster des commentaires sur un site WordPress ou suivre quelqu'un qui était sur Tumblr ou s'abonner, par exemple, à un compte YouTube. Donc, d'ailleurs, il y a une grande attente vis-à-vis d'un futur logiciel du fait divers, qui est le logiciel d'organisation d'événements mobilisants, qui vise à fournir une alternative aux groupes et aux événements Facebook. Donc plus concrètement, voilà, à partir de là, donc une personne qui est inscrite sur une instance Mastodon, eh bien, peut suivre un auteur, une autrice inscrite sur une instance de Plume parce qu'elle a bien aimé son dernier article. Voilà, globalement.
Ouais, après c'est vrai, on peut tout imaginer, voilà, quand tu dis elle a adoré son article parce que dans l'article cette personne a tagué sa vidéaste préférée qui publie ses vidéos sur sa propre instance Peertube, vidéos sous lesquelles on va trouver des commentaires qui sont inscrits depuis tout plein d'instances Mastodon différents, enfin voilà, donc ça, bon, je crois qu'on avait peut-être parlé dans une autre émission, donc ça vous surprend même plus, mais c'est vrai que c'est quand même une caractéristique très intéressante du fait divers. Alors par rapport aux pratiques de blogging, pour toi Anna, qu'est-ce que ça change tout ça ? Qu'est-ce que ça change cette ouverture sur toutes ces interactions possibles ?
Je pense que déjà ça fait que c'est beaucoup plus simple d'interagir avec un post de blog et qu'il a quand même beaucoup plus de visibilité comme ça. Parce que du coup, pour poster dans la section commentaires, il n'y a pas besoin de créer un compte supplémentaire, il n'y a pas besoin de donner d'adresse mail ou quoi. Il suffit juste d'écrire un post sur Mastodon et c'est réglé. Et puis, comme ça peut être partagé sur Mastodon, c'est aussi très simple de le partager à ses contacts qui passent dans la timeline. On fait juste un boost et tout le monde peut le voir. Mais du coup, ça change tout ce qui est visibilité et interaction des posts de blog qui, parfois, quand on visite un blog classique, entre guillemets, on a un peu l'impression qu'on ne sait pas si quelqu'un le lit, par exemple, et même quand on écrit un blog où il n'y a pas de section commentaire et où si on ne partage pas l'article sur les réseaux sociaux soi-même, c'est dur de savoir si quelqu'un le lit ou pas, en fait. Et avec Plume, je pense que c'est quand même plus clair ça. Et aussi, on peut facilement, comme vous l'avez dit, mentionner des gens qui ont des comptes ailleurs dans le fait divers, dans ces articles, si on veut. Ça crée des liens entre les différentes plateformes, finalement. Et...
Ouais. Oh, pardon, non, je ne veux pas te brimer.
Non, je sais pas, mais ça, c'est plus riche, entre guillemets, qu'un blog classique, j'ai envie de dire.
Ouais, mais complètement. Hein. C'est vrai que c'est assez fou quand on découvre tout ça. Ça enrichit vraiment les pratiques de blogging, comme tu l'as dit. Ça permet d'identifier, de créer de nouvelles relations entre les contenus multimédia qui peuvent être dans le fait divers, et puis de former de nouveaux liens aussi entre les auteurs, les autrices. Et on peut dire que ça fait vraiment évoluer notre rapport au contenu d'un billet de blog, quoi, nos manières de diffuser, de le discuter, et de l'intégrer à d'autres formes d'expression aussi avec d'autres contenus multimédia. Donc, enfin voilà, donc on peut dire que Plume a le potentiel et transforme déjà les pratiques de blogging en les orientant avec la philosophie du fait divers, qui pourrait être de dire que on va favoriser la diversité des formes d'expression et d'interaction de manière générale.
Alors moi j'ai une petite question, Anna, parce que bah, effectivement c'est un sujet, je crois, qui est pris très au sérieux dans le fait divers. Enfin moi je pense à Plume et à Funk Whale, où il y a vraiment cette idée aussi de voilà faire un code de conduite, essayer de donner des outils à tout le monde pour pouvoir choisir le contenu qu'il veut voir et pas voir. Et effectivement une des caractéristiques du fait divers, c'est que si jamais sur une autre instance, il y a des gens qui postent des choses dont je considère qu'elles ne devraient pas exister, en tout cas que je n'ai pas envie de voir, on ne peut pas évidemment les supprimer nous-mêmes, puisque l'instance ne nous appartient pas. Donc il y a une vraie question qui se pose autour de la modération sur le fait divers. Et je me demandais, aujourd'hui et dans le futur, sur une instance Plume, comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, ne pas interagir avec certaines instances dont on considère qu'elles sont toxiques ou qu'on ne veut tout simplement pas voir ? Est-ce que c'est un sujet important ?
C'est un sujet important et on va travailler dessus. Pour le moment, les fonctionnalités de modération, elles sont très restreintes, on va dire. On prévoit de travailler dessus une fois qu'on aura fini de résoudre certains problèmes techniques qu'on a avec le code en ce moment, je pense. Mais du coup, pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est supprimer le compte d'un utilisateur ou d'une utilisatrice sur sa propre instance quand on est administrateur. Tout simplement le compte en question poste des contenus qu'on n'a pas envie de voir sur son instance, ou on peut bloquer une autre instance qui fait que tous les posts et tous les messages qui viennent de cette instance n'apparaîtront pas et seront juste refusés, et leur sera refusé.
Ok, voilà. C'est déjà pas mal le fait de pouvoir du moins bloquer des instances distantes qui seraient problématiques.
C'est l'essentiel, on va dire, pour c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Mais dans le futur, on pense faire des choses comme pouvoir filtrer peut-être un peu plus précisément les contenus d'autres instances. Peut-être pouvoir, par exemple, refuser d'afficher dans les timelines de public certains tags. Des articles contiennent certains hashtags ou certains mots dans le titre, ce genre de choses. Ce qu'on prévoit de faire aussi, c'est toutes les fonctionnalités de modération basique, donc tout ce qui est par exemple comptes qui doivent être approuvés avant de pouvoir être utilisés, donc approuvés par l'administrateur, ou avoir des liens d'invitation pour pouvoir créer un compte, refuser certaines adresses mail qui sont connues par exemple pour être des spams, enfin des comptes de spam. Ce genre de choses. Et puis aussi une modération au niveau personnel, on va dire, où finalement l'admin de l'instance dit ce compte, je l'accepte, mais nous, personnellement, on n'a pas envie de le voir, donc on peut le bloquer juste pour nous. Ce genre de choses. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de travail à faire, mais c'est quelque chose qu'on trouve important et on va travailler dessus. Il n'y aura pas de version stable de Plume sans ces fonctionnalités.
Ouais, donc effectivement, beaucoup, beaucoup de travail. Donc bon, toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein, si Plume vous a donné de l'enthousiasme, eh bien n'hésitez pas à aller aider toute l'équipe à rendre ces fonctionnalités possibles. Pour terminer, pour ceux, celles et ceux qui seraient tentés de peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe sur Plume et ou même d'écrire carrément un article, où est-ce qu'on peut aller aujourd'hui, Romain, pour consulter des articles et puis peut-être en écrire ?
Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs instances déjà de Plume qui sont en fonctionnement. La première, l'instance qui est l'instance historique de Plume, ça va être faitdivers.blog. C'est l'instance historique, donc la première qui était là. Il y a aussi palom.be, donc P-A-L-O-M.be, présenté comme un refuge pour les écrivains souhaitant partager leurs nouvelles via la magie du fait divers. C'est assez poétique. Plume.fedi.québec, une instance francophone principalement dédiée aux Québécois et aux Québécoises. Toff.framasoft.org, donc Toff pour Tale of Fediverse, c'est un projet de Framasoft, qui vise à ouvrir un espace de publication d'articles, de réflexions et de récits et de témoignages autour du Fediverse. Et donc bientôt, il y aura aussi blog.picassoft.net, qui est l'instance de Picassoft, mais qui n'est pas ouverte à l'écriture pour tout le monde. Donc voilà. Et il y a aussi https.joinplus.me. Qui est le site de présentation du projet Plume, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est par là qu'on va voir en effet une liste d'instances par lesquelles commencer. Alors Anna, je me doute que tu as peut-être ton instance à toi, et puis après si tu penses aussi à d'autres instances à conseiller aux premiers arrivants, arrivantes.
Personnellement, j'ai mon compte sur fediverse.blog. Et après, toutes les instances listées sur le site de Plume, donc joinplus.me, sont ouvertes au public a priori. Donc il suffit d'en trouver une qui convient et de s'inscrire dessus.
Et super. Ok, écoute, merci beaucoup Anna. Merci d'être restée avec nous sur toute l'émission. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et puis, écoute, on a beaucoup de liens et de d'endroits pour pouvoir suivre ces travaux et puis aller voir Plume. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Donc, je vous remercie bien toutes toi, Anna, et tous les trois, j'allais dire toutes nous quatre. J'ai pas envie de terminer. Bonne journée à vous. Salut Romain, salut Quentin, salut Audrey.
Salut, longue vie à Plume, à la prochaine.
Salut.